Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix d'Indonésie en français. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce soir pour cette petite heure de programme dédiée à l'Indonésie. Le sommaire aujourd'hui sont le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, la mise au point et le rappel des titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie encourage l'intensification de la coopération des droits de l'homme. L'Indonésie a résolu les conflits interethniques. Le président indonésien accepte les lettres de créance de 8 ambassadeurs. L'Indonésie est soutenue par 25 pays à devenir le membre du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI. Le ministre Susi a dit que les navires étrangers qui volent le poisson dans la mer de l'Indonésie seront noyés. L'Indonésie va acheter des avions amphibies et des sous-marins de la Russie. Voici le journal complet. Le gouvernement indonésien a encouragé les efforts visant à accroître la coopération des droits de l'homme avec la Norvège. Il a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à l'ouverture du 12e dialogue des droits de l'homme Indonésie-Norvège lundi à Jakarta. Selon elle, actuellement, la question des droits de l'homme fait face à des défis qui se développent toujours et est devenue les préoccupations pour les deux pays.
But in a view to sustaining its relevance, we need to continuously adjust.
Mais dans le but de soutenir cette coopération, nous devons nous adapter en permanence notre ordre du jour de la discussion sur les questions des droits de l'homme actuellement. Nous devrions nous concentrer sur les défis spécifiques aux droits de l'homme qui sont notre intérêt commun et de l'intérêt existant. Le 12e dialogue des droits de l'homme Indonésie-Norvège est assisté par les envoyés de deux pays de divers éléments concernés. Ce dialogue fait partie de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères norvégien, Børge Brende, dans le cadre de la 12e réunion de la commission mixte de coopération bilatérale. Le dialogue avait déjà été tenu à Oslo, en Norvège, en 2012. L'envoyé spécial du président pour le Moyen-Orient et l'Organisation de la coopération islamique, Alwi Shihab, dans un dialogue international sur la diversité ethnique et religieuse lundi à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie avait surmonté avec succès les conflits interethniques et religieux dans le pays. Selon lui, l'Indonésie a conduit actuellement à la construction d'une société harmonieuse pour soutenir le développement national.
In Indonesia, we experience this kind of conflict in the past.
En Indonésie, nous avons connu des conflits dans le passé. Dieu merci, alhamdulillah, les conflits ethniques et religieux à la fois à Kalimantan et au Molouk ont été résolus de manière satisfaisante. Nous sommes en train de construire une société interethnique harmonieuse. Nous espérons que nous pouvons le garder pour que nous puissions construire l'Indonésie sans interruption. Alwi Shihab a dit « Le conflit interethnique et religieux ne se produit pas seulement en Indonésie, mais aussi dans de nombreux pays mondiaux. » Selon lui, le modèle de solution de conflits est nécessité qui peut être utilisé dans tout le pays en raison des conflits ethniques peuvent perturber le bien-être de tous les citoyens. Le président Joko Widodo accepte la lettre de créance de 8 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires pour la République d'Indonésie au Palais Merdeka Jakarta mardi. Ces ambassadeurs sont Slobodan Marinković, l'ambassadeur de la République de Serbie à la République d'Indonésie, M. Arega Hailo Tefera, ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie à la République d'Indonésie, M. Anung Ashto, ambassadeur de la République de l'Union du Myanmar pour la République d'Indonésie, ainsi que Mme Roya Rahmani, ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan pour la République d'Indonésie. En outre, ce mercredi, le président Joko Widodo accepte également une visite de courtoisie du ministre norvégien des Affaires étrangères, M. Bert Brende. L'Indonésie a gagné le soutien d'au moins 25 pays en développement, des 31 pays invités à l'élection des membres du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, pour la période de 2016 à 2019. Le ministre des Transports, Ignatius Jonan, dans une conférence de presse d'une réunion du niveau ministériel des pays en développement de transport pour l'élection de l'OACI, à Denpasar Bali Langdi, a dit que le reste ne déterminait pas son soutien pour l'Indonésie. Au cours de la réunion, Ignatius Jonan offre une excellente coopération dans le domaine du transport aérien et d'autres modes de secteur de transport vers ce pays. En outre, Ignatius Jonan offre également d'autres collaborations en plus du secteur de l'industrie du transport aérien, tels que le développement des chemins de fer. Il a ajouté, pour obtenir l'appui des pays développés, on organisera une réunion bilatérale en niveau ministériel. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Mme Susi Pujastuti, lutte contre les activités de pêche illégale dans les océans indonésiens. La ministre Susi a déclaré lundi à Jakarta qu'elle ne discriminait pas dans l'application de la loi maritime d'Indonésie. Les navires étrangers de tous les pays, y compris les États-Unis, seraient noyés s'ils sont prouvés entre dans la zone économique exclusive et de voler du poisson. La ministre Susi a souligné qu'elle n'a pas peur de couler le navire des États-Unis s'il vole le poisson dans la mer de l'Indonésie. Le gouvernement a l'intention d'acheter des avions amphibies et des sous-marins de la Russie. L'ambassadeur d'Indonésie à Moscou, Muhammad Wahid Supriyadi, a déclaré lundi à Moscou son intention d'acheter un avion amphibie étant développé par le bureau Sukhoi et des sous-marins de la classe Kilo de la Russie. Selon Muhammad Wahid Supriyadi, les spécialistes russes concernés seront invités à l'Indonésie. Rapporté plus tôt, le même jour, la Russie est prête à commencer à expédier l'avion amphibie BE-200CHS qui produit Beriev Aircraft Company basé à Taganrog en Indonésie. Pendant ce temps, le président du United Aircraft Manufacturing Corporation de la Russie, Yuri Slyusar, espère que le contrat avec l'Indonésie sera l'un des premiers contrats dans le domaine de la coopération militaire et technique. Serditeur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Sexy Melongten, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre « Répondre aux questions sur la résurgence de PKI ». Le président de l'Assemblée consultative populaire, MPR, Zulkifli Hasan, a demandé aux gens et aux fonctionnaires publics de ne pas être trop réactifs pour faire face à la question sur la résurgence du Parti communiste indonésien ou PKI. Selon lui, aujourd'hui, l'ennemi principal de la nation est les disparités économiques entre les individus et entre les régions et le centre. Zulkifli a également rappelé qu'il y avait des aspects de graves violations des droits de l'homme qui doivent bientôt être résolus afin de ne pas être un fardeau de l'histoire. Le président de MPR, Zulkifli Hassan, a demandé que toutes les questions soient soumises au gouvernement et ne pas prendre des mesures qui peuvent résulter une violation du droit. À une autre occasion, le vice-président de MPR, Hidayat Nur Wahid, a affirmé que, comme un pays qui respecte les préceptes de la croyance en un seul Dieu, l'Indonésie n'a pas de place pour le communisme. Il est donc très étrange s'il y a maintenant quelqu'un qui essaie de faire revivre l'idéologie communiste qui ne dispose pas d'ailleurs Dieu. Selon lui, PKI n'a pas de droit de vivre en Indonésie. Si nous regardons en arrière à l'histoire, le Parti communiste indonésien, PKI, était le plus grand parti communiste non de scission dans le monde après la Russie et la Chine avant qu'il ait été démoli en 1965 et ait été déclaré comme parti interdit l'année suivante. En fait, au-delà des discussions sur la relance de PKI, il est temps pour le gouvernement de fournir une explication adéquate pour éviter le spectre des routins et être effrayant. Il peut être commencé à partir d'une enquête qui n'est pas biaisée sur vrai ou non il y a un mouvement pour faire revivre l'idéologie communiste. Alors que les gens ne sont pas confus et cherchent individuellement des réponses et conduisent à des troubles et de la confusion. Il y a encore beaucoup de devoirs qui ne sont pas encore surmontés, tels que l'écart entre riches et pauvres qui se creuse. La pauvreté évoque souvent les émissions et la jalousie et conduit à des troubles. Le gouvernement doit surmonter immédiatement ces lacunes en cherchant la meilleure solution pour rendre l'économie indonésienne mieux au lieu d'ouvrir de vieilles blessures. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 31 mai 1910, la création de l'Union d'Afrique du Sud. L'Union sud-africaine était un dominion britannique situé à la pointe sud de l'Afrique. L'Union d'Afrique du Sud existe de 1910 jusqu'en 1961. Le Royaume-Uni agit comme chef de l'État jusqu'au 31 mai 1961, lorsque le pays a annoncé le changement du Commonwealth à la République. La formation de l'Union de l'Afrique du Sud a eu lieu 8 ans après la fin de la guerre anglo-boer qui a éclaté entre les immigrants néerlandais et les soldats britanniques. L'Afrique du Sud a été découverte par un marin portugais en 1488. En raison de la richesse naturelle de l'Afrique du Sud, les peuples de l'Europe, surtout les Pays-Bas, sont venus et s'y sont installés depuis le milieu du XVIIe siècle. Le 31 mai 1996, élection en Israël, Benjamin Netanyahu est élu premier ministre de son pays, remplacé Simon Peres du Parti Travailliste. Netanyahu, qui était âgé de 47 ans, est devenu le plus jeune premier ministre dans l'histoire d'Israël. Sa carrière a commencé par se joindre à l'armée israélienne. Pendant la campagne, Netanyahu du parti de Likoud a promis d'être ferme contre les Palestiniens. Cette promesse a été remplie par Netanyahu à poursuivre les massacres, expulsions et les démolitions des maisons des Palestiniens. La carrière de Netanyahu n'a pas duré longtemps. 3 ans plus tard, en raison d'une variété de conflits politiques internes, il l'a renversé et remplacé par Ehud Barak du Parti Travailliste. Le 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Le 31 mai de chaque année, l'OMS et ses partenaires célèbrent La Journée mondiale sans tabac afin d'alerter le grand public sur le danger pour la santé lié au tabagisme et de défendre les politiques visant à réduire efficacement la consommation de tabac. Le tabagisme qui tue actuellement un adulte sur 10 dans le monde est la principale cause de décès évitable. L'Organisation mondiale de la santé estime que 2020, le tabac sera la principale cause de décès et incapacité avec plus de 10 millions de victimes par an. Le tabagisme entraînera alors plus de décès à travers le monde que le sida, tuberculose, la mortalité maternelle, les accidents de voiture, les suicides et homicides combinés. On estime que l'habitude de fumer chaque année cause la mort de 5,4 millions de personnes. Le pays membre de l'Organisation mondiale de la santé a initié la Journée mondiale sans tabac en 1989. Dans la dernière décennie, ce mouvement a fait la bonne réaction sous la forme de soutien du gouvernement, des activistes de la santé et l'Organisation de santé publique ou de l'opposition des fumeurs, agriculteurs de tabac et l'industrie du tabac. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'engagement du gouvernement indonésien pour stabiliser les prix avant et pendant le mois de Ramadan ». La hausse des prix avant et pendant le mois de Ramadan arrive toujours chaque année. Le chef du bureau de représentation de la Banque d'Indonésie à Cirebon, Java West, M. Abdul Majid Ikram, cité par Antara samedi, a expliqué que les prix de tous les produits ont augmenté avant et pendant le Ramadan en raison de jeux de distributeurs ou revendeurs. Selon lui, la hausse des prix et le jeu a été déclenché à l'origine d'une augmentation de la demande du public avant et pendant le Ramadan, à la fois pour la consommation et les autres. Le vice-président Yusuf Kalla a admis la hausse des prix avant et pendant le Ramadan toujours arrive chaque année parce que la communauté a un besoin soudain. Mais le gouvernement est déterminé à maintenir la stabilité des prix des besoins de base avant et pendant le mois de Ramadan jusqu'à l'Idul Fitr 2016. Pour maintenir la stabilité des prix, le gouvernement maintiendra la continuité de l'approvisionnement. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, M. Darmin Nasution, a déclaré « Pour maintenir l'approvisionnement et les efforts de stabilisation des prix, le gouvernement veut importer de sorte qu'aucune des pénuries alimentaires et le prix n'est pas trop élevé avant le Ramadan au début de juin 2016. » Selon M. Darmin Nasution, la présence, le prix de quelques produits alimentaires sont en hausse comme la viande de bœuf, l'oignon jusqu'à la fin de mai 2016, bien qu'il y ait des prix des marchandises qui sont à la baisse, entre autres le riz et le chili, car il entre dans une période de récolte. Le directeur général du ministère de l'Industrie et de l'Agriculture, Pangga Susanto, a estimé qu'il a même avis avec Darwin qu'on va importer des produits alimentaires parce que le prix de quelques produits au niveau du détail augmente par des allégations d'une offre limitée. Selon Pangga Susanto, on doit maintenir la demande et la fourniture des produits alimentaires pour que les prix des produits alimentaires ne fluctuent pas trop élevés. Le ministre de l'Agriculture, M. Amran Sulaiman, a fait appel à diverses associations liées au secteur alimentaire afin de contribuer à sauvegarder la stabilité des prix des denrées alimentaires jusqu'à l'Eid al-Fitr. Selon Amran, maintenir la stabilité des prix de produits alimentaires est non seulement la responsabilité du ministère de l'Agriculture, mais la responsabilité commune. Chers amis, c'était la mise au point de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le gouvernement indonésien a encouragé les efforts visant à accroître la coopération des droits de l'homme avec la Norvège. Il a été déclaré par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, à l'ouverture du 12e dialogue des droits de l'homme Indonésie-Norvège lundi à Jakarta. Selon elle, actuellement, la question des droits de l'homme fait face à des défis qui se développent toujours et est devenue les préoccupations pour les deux pays.
But in a view to sustaining its relevance, we need to continuously adjust.
Mais dans le but de soutenir cette coopération, nous devons nous adapter en permanence à notre ordre du jour de la discussion sur les questions des droits de l'homme actuellement. Nous devrions nous concentrer sur les défis spécifiques aux droits de l'homme qui sont notre intérêt commun et de l'intérêt existant. Le 12e dialogue des droits de l'homme Indonésie-Norvège est assisté par les envoyés de deux pays de divers éléments concernés. Ce dialogue fait partie de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères norvégien, Børge Brende, dans le cadre de la 12e réunion de la commission mixte de coopération bilatérale. Le dialogue avait déjà été tenu à Oslo, en Norvège, en 2012. L'envoyé spécial du président pour le Moyen-Orient et l'Organisation de la coopération islamique, Alwi Shihab, dans un dialogue international sur la diversité ethnique et religieuse lundi à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie avait surmonté avec succès les conflits interethniques et religieux dans le pays. Selon lui, l'Indonésie a conduit actuellement à la construction d'une société harmonieuse pour soutenir le développement national.
In Indonesia, we experienced this kind of conflict in the past.
En Indonésie, nous avons connu des conflits dans le passé. Dieu merci, alhamdulillah, les conflits ethniques et religieux à la fois à Kalimantan et au Molouk ont été résolus de manière satisfaisante. Nous sommes en train de construire une société interethnique harmonieuse. Nous espérons que nous pouvons le garder pour que nous puissions construire l'Indonésie sans interruption. Alwi Shihab a dit « Le conflit interethnique et religieux ne se produit pas seulement en Indonésie, mais aussi dans de nombreux pays mondiaux. » Selon lui, le modèle de solution des conflits est nécessité qui peut être utilisé dans tout le pays en raison des conflits ethniques peuvent perturber le bien-être de tous les citoyens. Le président Joko Widodo accepte la lettre de créance de 8 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires pour la République d'Indonésie au Palais Merdeka Jakarta mardi. Ces ambassadeurs sont Slobodan Marinković, l'ambassadeur de la République de Serbie à la République d'Indonésie, M. Arega Hailo Tefera, ambassadeur de la République démocratique fédérale d'Éthiopie à la République d'Indonésie, M. Anung Ashto, ambassadeur de la République de l'Union du Myanmar pour la République d'Indonésie, ainsi que Mme Roya Rahmani, ambassadeur de la République islamique d'Afghanistan pour la République d'Indonésie. En outre, ce mercredi, le président Joko Widodo accepte également une visite de courtoisie du ministre norvégien des Affaires étrangères, M. Børge Brende. L'Indonésie a gagné le soutien d'au moins 25 pays en développement, des 31 pays invités à l'élection des membres du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, pour la période de 2016 à 2019. Le ministre des Transports, Ignatius Jonan, dans une conférence de presse d'une réunion du niveau ministériel des pays en développement de transport pour l'élection de l'OACI à Denpasar, Bali, lundi, a dit que le reste ne déterminait pas son soutien pour l'Indonésie. Au cours de la réunion, Ignatius Jonan offre une excellente coopération dans le domaine du transport aérien et d'autres modes de secteurs de transport vers ce pays. En outre, Ignatius Jonan offre également d'autres collaborations en plus du secteur de l'industrie du transport aérien, tels que le développement des chemins de fer. Il a ajouté, pour obtenir l'appui des pays développés, on organisera une réunion bilatérale en niveau ministériel. La ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Susi Pujastuti, lutte contre les activités de pêche illégale dans les océans indonésiens. La ministre Susi a déclaré lundi à Jakarta qu'elle ne discriminait pas dans l'application de la loi maritime d'Indonésie. Les navires étrangers de tous les pays, y compris les États-Unis, seraient noyés s'ils sont prouvés entrer dans la zone économique exclusive et de voler du poisson. La ministre Susi a souligné qu'elle n'a pas peur de couler le navire des États-Unis s'il vole le poisson dans la mer de l'Indonésie. Le gouvernement a l'intention d'acheter des avions amphibies et des sous-marins de la Russie. L'ambassadeur d'Indonésie à Moscou, Muhammad Wahid Supriyadi, a déclaré lundi à Moscou son intention d'acheter un avion amphibie étant développé par le bureau Sukhoi et des sous-marins de la classe Kilo de la Russie. Selon Muhammad Wahid Supriyadi, les spécialistes russes concernés seront invités à l'Indonésie. Rapporté plus tôt, le même jour, la Russie est prête à commencer à expédier l'avion amphibie BE-200CHS qui produit Beriev Aircraft Company basé à Taganrog, en Indonésie. Pendant ce temps, le président d'United Aircraft Manufacturing Corporation de la Russie, Yuri Slyusar, espère le contrat avec l'Indonésie sera l'un des premiers contrats dans le domaine de la coopération militaire et technique. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Et après, nous vous présentons le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter le village touristique de Praeliu, près de la village Oingapu dans le province de Nusa Tenggara Est. Donc, restez toujours avec nous. Le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Outre par l'intermédiaire de l'encoute, 9525 kHz, vous pouvez aussi nous capter par l'intermédiaire de streaming à www.voi.co.id. Praeliu est un joli village près de la ville Waingapu, département de Sumba Est, province de Nusa Tenggara Est, qui maintient toujours ses valeurs traditionnelles. Praeliu se trouve dans le banlieue à Waingapu, Sumba Est, ou environ 2 km de quartier commerçant de Waingapu. La spécificité de ce village touristique est marquée par l'existence des maisons traditionnelles nommées Uma Batang ou Uma Oril. Il est également le site de tombes magnétiques appelées Reti de statues ou Penji et de certains objets archéologiques qui sont conservés. Il est enfin célèbre pour les foulards et le sarong fabriqués par tissage de type ikat qui ajoute à la richesse culturelle de ce village. Thank you. Avec toute sa richesse culturelle, Prailiu devient un des villages touristiques phares de la province de Nusa Tenggara Est. Allez au village touristique, vous serez invité à manger de veille de betel. Le betel est un aliment obligatoire pour les visiteurs dans le village Prailiu. Toutefois, si vous ne souhaitez pas en manger, vous ne seriez pas obligé de le manger. Mais si vous voulez réfugier, faites-le poliment par respect pour les habitudes de la population locale. Ici, vous verrez les maisons traditionnelles avec architectural haute et des toits de feuilles. La maison traditionnelle de village Prailiu comporte de trois sections représentant la cosmologie locale. La partie souterraine comme la maison de mort, le centre de la maison pour vivre et une partie du toit qui est la maison de Dieu. Outre les maisons traditionnelles, Prailiu possède aussi un nombre de tombeaux antiques remplis de sculptures. Vous pourrez également trouver ici le tissage traditionnel Kunu et voir le processus de tissage ici. Et on peut voir les mères qui sont en train de tisser. Elles peuvent vous expliquer la façon de tisser et de teindre le fil avec des colorants naturels. N'oubliez pas d'acheter des tissus et des produits tissés qui constitue la caractéristique du village de Prailiu. Si vous visitez Prailiu, n'oubliez pas d'admirer la jolie savane herbeuse qui complétera votre aventure à Nusa Tenggara Est. Pour vous rendre au village de Prailiu, il y a un vol de Kupang, la capitale de Nusa Tenggara Est, vers l'aéroport de Waingapu. Vous pouvez aussi prendre un transport maritime. Il y a un ferry qui dessert Waingapu à partir de Kupang. Bien, chers amis, c'était la rubrique de magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. Merci de votre fidélité et attention. Au revoir.
Pour comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien qui introduit le vocabulaire et les expressions dans la langue indonésienne et leur utilisation dans une conversation. Le sujet pour ce soir est menginap di hotel ou en français séjourner à l'hôtel. Comme d'habitude, je vais présenter le vocabulaire et les expressions de la langue indonésienne reliant à la conversation aujourd'hui. Je vais prononcer chaque mot et chaque expression lentement deux fois et vous pouvez répéter après moi. Selamat datang. Selamat datang. En français, bienvenue. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En français, comment puis-je vous aider? Terima kasih. Terima kasih. En français, merci. Réservation. Réservation. En français, réservation. Kamar besar. Kamar besar. En français, grand chambre. Mau tinggal berapa hari? Mau tinggal berapa hari? En français, vous voulez rester combien de jours? Mau tinggal tiga hari. Mau tinggal tiga hari. En français, je veux rester pendant trois jours. Berapa tarifnya? Berapa tarifnya? En français, quelle est la charge? Per hari. Per hari. En français, par jour. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. En français, 1 million rupiah. Makan pagi. Makan pagi. En français, le petit déjeuner. Mau masuk hari ini? Mau masuk hari ini? En français, vous voulez check in aujourd'hui? Besok. Besok. En français, demain. Baiklah. Baiklah. En français, d'accord. Menunggu. Menunggu. En français, attendre. Kedatangan Anda. Kedatangan Anda. En français, votre visite. Bon, chers amis, maintenant nous voulons vous présenter une conversation entre la réceptionniste A et Monsieur Andy B. Vous pouvez répéter après moi. A. Selamat datang di Hotel Paramita. Ada yang bisa saya bantu? A. Selamat datang di Hotel Paramita. Ada yang bisa saya bantu? En français, bienvenue à l'Hotel Paramita. Comment puis-je vous aider? B. Terima kasih, Nona. Saya Andy. Saya mau reservasi 1 kamar besar. Apakah ada? B. Terima kasih, Nona. Saya Andy. Saya mau reservasi 1 kamar besar. Apakah ada? En français. Merci, mademoiselle. Je suis Andy. Je veux faire une réservation pour une grande chambre. Est-ce que c'est possible? A. Ada. Mau tinggal berapa hari, Pak? A. Ada. Mau tinggal berapa hari, Pak? En français. Oui. Vous voulez rester combien de jours? B. Saya mau tinggal 3 hari. Berapa tarifnya per hari? B. Saya mau tinggal 3 hari. Berapa tarifnya per hari? En français, je veux rester 3 jours. Quelle est la charge par jour? A. 1 hari 1 juta rupiah. Disediakan sarapan pagi. Apakah Anda mau masuk hari ini atau besok? 1 hari 1 juta rupiah. Disediakan sarapan pagi. Apakah Anda mau masuk hari ini atau besok? En français, 1 million rupiah par jour. On prépare le petit déjeuner, vous voulez entrer aujourd'hui ou demain? B. Besok. B. Besok. En français, demain. A. Baiklah, kami akan menunggu kedatangan Anda. A. Baiklah, kami akan menunggu kedatangan Anda. En français, Très bien, nous attendons votre visite. B. Terima kasih. En français, merci. A. Terima kasih kembali. A. Terima kasih kembali. En français, je vous en prie. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter une jeune chanteuse nommée Alika. Voici la chanson d'Alika intitulée « S'il savait ». Bonne écoute. Serita, c'est la chanson d'Alika intitulée S'il savait. Cette chanson est la vieille chanson de Yovi et Nuno qui était chantée à nouveau par Alika. C'est l'une des 11 chansons dans le deuxième album d'Alika intitulé My Secret Room, lancé en 2011. La chanson intitulée S'il savait raconte les sentiments d'amour qui venaient d'être présents et ne sont pas encore révélés. Cet album a été publié lors que Alika a 16 ans. Alika ou Karis Alika Islamadina est née à Sydney, l'Australie en 1994. Sa carrière dans la musique a commencé quand elle a participé à l'événement de la recherche de talent à la station de télévision privée nationale. En compositeur, Elfa Cessura est intéressée à composer des chansons pour Alika. Elle sort son premier single, intitulé « Cher ami », qui a reçu 3 prix d'amis, à savoir le meilleur chanteur de l'enfant, le meilleur album pour les enfants et des meilleures compositions musicales de la chanson d'enfant 2006. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante d'Alika, intitulée « Je suis allée ». Bonne écoute.
Tertawa, pernah bahagia bersama.
Cinquième longtemps, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse, Alika. En plus d'aimer la musique de l'amour, l'éducation est importante pour Alika. Après avoir fini ses études à l'Université Linguisi en 2015, puis Alika voulait même continuer ses études en Australie. Pour remplir son temps libre, enfin, Alika fait des affaires en ligne. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons d'Alika intitulées « J'attends » et « GR ». Bonne écoute et au revoir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Mungkinkah adanya api cinta antara kita? Warnai hati.
hariku. Apakah ini pertanda tumbuhnya benih-benih cinta? Hari demi hari berlalu, raguku dibuatmu beribu tanya di hati. Apakah dirimu rasakan yang sama?
Auditeurs, auditrices, c'était le magazine musical de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Ainsi, nous terminons notre émission pour ce soir. Au revoir à tous, on se retrouve demain, même heure et même fréquence.
Radio République Indonésia, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.